Peut-on être chrétien sans être pratiquant? Peut-on être chrétien sans Église? Bien, je crois que ce sont là deux questions différentes. Parce que, pour ce qui est d'être pratiquant, évidemment que d'être chrétien, c'est être pratiquant. Être chrétien, c'est vivre concrètement quelque chose. Le christianisme n'est pas qu'une idéologie, une sorte de philosophie un petit peu éthérée dans laquelle on croirait mais qui n'impliquerait rien dans son existence. Être chrétien, ça implique de pratiquer quelque chose dans sa vie, ça implique un engagement, une façon de vivre. Être chrétien, c'est être un pratiquant, je dirais, de l'amour, du service, de l'humilité dans ce monde. Ça, c'est la vraie pratique chrétienne. Quant à la pratique religieuse, c'est autre chose. De savoir, est-ce que être chrétien, c'est nécessairement aller au culte, aller à la messe, faire ses dévotions, lire la Bible, prier et tout cela, c'est autre chose. Parce que je crois que la pratique purement religieuse, la pratique d'église, eh bien, je pense que c'est secondaire, en fait. En effet, elle est certainement non pas un but de la vie, mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas un but qu'elle n'est rien, je pense qu'elle peut être un moyen. Oui, c'est vrai, l'essentiel, c'est ce que l'on vit chez soi. Peut-être que je suis très protestant en disant cela, mais néanmoins, je suis persuadé que ce qui est fondamental, ce n'est pas tellement d'aller dans une église ou dans une autre, de faire des dévotions, de participer à des sacrements ou à des rites. L'essentiel, c'est de trouver Dieu dans sa vie. C'est d'entendre son appel, c'est de vouloir travailler à son service. C'est ça qui peut changer une vie. Et ce n'est pas, je crois, la pratique de l'Église. C'est la vie personnelle. Et cette vie personnelle, quand vraiment elle se fait avec l'aide et la présence de Dieu, cela peut donner des choses extraordinaires dans une existence. Mais le fait de se recentrer sur, je dirais, l'importance de l'action concrète, je dirais, ne veut pas dire qu'il faille se passer de toute pratique. Parce que je crois que la pratique religieuse, c'est en fait se donner des moyens de progresser. Voilà. Bon, par exemple, si vous me demandez, est-ce que l'on peut apprendre à jouer du piano sans prendre de leçons? Je dirais oui, bien sûr, théoriquement, on peut très bien apprendre à jouer du piano tout seul. Vous vous mettez devant votre clavier, vous apprenez les notes et puis vous vous entraînez. Peut-être que vous finirez par y arriver. Donc je dirais oui, tout est possible. Mais je crois que tout seul, c'est quand même difficile. Tout seul, ce n'est pas optimisé, je dirais. Et il faut faire attention à ne pas trop croire en soi, ne pas trop se croire plus fort que tout le monde et se dire, eh bien, les autres ont besoin de pratiques religieuses, mais parce qu'ils sont faibles, moi je n'en ai pas besoin et je saurai m'en passer. Je pense que la pratique, c'est bien utile pour progresser, justement. C'est pratique pour apprendre, pour se garder en mouvement. C'est pratique aussi pour se confronter à d'autres idées, se confronter à des idées nouvelles, pour relancer aussi sa propre réflexion. Parce que il faut bien dire que nous avons un peu tous tendance à oublier Dieu. Nous avons tous tendance à faire passer le spirituel au deuxième plan ou le remettre à demain et à se préoccuper d'autres choses plus matérielles et qui semblent peut-être plus urgentes en quelque sorte. Eh bien, justement, je crois que d'aller à l'Église, c'est de se forcer de temps en temps à se rappeler que Dieu existe, à se rappeler qu'il y a du spirituel. C'est se forcer à se remettre un petit peu dans ces questions que nous aurions sinon tendance à oublier. Aller à l'Église ou s'imposer une certaine pratique religieuse, c'est se faire une petite piqûre de rappel spirituel, je dirais. Donc je crois, oui, très profondément, qu'il est bon d'avoir une discipline spirituelle, oui. C'est-à-dire qu'il faut aller au culte, par exemple, pas seulement si on en a envie. Parce que peut-être que justement le sens de la pratique de l'Église n'est pas, je dirais, de trouver le moyen de répondre à une sorte d'aspiration à l'égard de Dieu, mais c'est plutôt de trouver le moyen de raviver en soi une aspiration à l'égard de Dieu qui est mourante ou qui est faiblissante. Si jamais vous vous levez le matin, ou si vous arrivez le soir en vous disant « tiens, j'ai envie d'aller au culte », eh bien ce n'est même pas la peine d'y aller en un sens. C'est que vous êtes déjà tout proche de Dieu. et qu'il y a déjà en vous tout ce qu'il faut pour trouver cette relation à Dieu. C'est justement le jour où on se dit « Tiens, ça me rase et j'ai pas du tout envie d'y aller » qu'il faut y aller. Parce que c'est à ce moment-là, peut-être, que vous êtes le plus en danger et qu'il faut justement essayer de retrouver ce Dieu qui est en train de vous échapper. Une fois, une paroissienne me dit « Monsieur le pasteur, que dois-je faire? Je n'ai plus envie de prier. » Eh bien, je lui ai dit comme ça, et j'étais bien inspiré ou pas, je ne le sais, je lui ai dit « Madame, eh bien, priez !» Oui, parce que la prière, ce n'est pas justement de se dire « Ah, ça tombe bien, je me sens proche de Dieu. » Prier, c'est justement rechercher Dieu. Prier, c'est se forcer à se donner un rendez-vous avec celui qui, sinon nous ne risquerions de ne pas voir. Donc oui, prier, c'est chercher Dieu, et c'est pas simplement répondre à son appel. Prier, c'est crier vers Dieu. Et Luther disait la même chose à sa manière. Luther disait, paraît-il, « Quand je n'ai plus envie de prier, je cours vers mon oratoire et je lis les psaumes. » Voilà, c'est ça l'action positive de la pratique religieuse qui consiste justement à réveiller celui qui a besoin d'être réveillé dans sa vie spirituelle. Et donc théoriquement, je dirais qu'un protestant peut très bien se passer de toute pratique religieuse. Un protestant peut très bien se passer de toute église. Et d'ailleurs, les protestants l'ont prouvé. L'église protestante a été interdite pendant un siècle, c'est-à-dire 3 ou 4 générations, où il n'y avait ni culte, ni pasteur, ni liturgie, ni sainte-cène, ni catéchisme, ni rien. Et en fait, même affaibli, le protestantisme a survécu dans les familles, dans la foi de chacun, dans le cœur de ceux qui y croyaient. Donc le protestant peut se passer de l'église. Dans le fond, il n'en a pas besoin. Il lui suffit d'être dans son coin, il peut lire sa Bible, il peut prier, il peut croire en Dieu. Qu'a-t-il besoin d'une église? Il n'en a pas besoin et il peut s'en passer, mais je crois que même si c'est théoriquement vrai, pratiquement, c'est quand même difficile de se passer d'une église parce que, à cause de notre faiblesse, nous en avons besoin. Donc je dirais, si vous voulez, que l'Église, pour moi, en tant que théologien protestant, ne répond pas à une nécessité théologique. Et d'ailleurs, le Christ n'a pas fondé d'Église. Le Christ n'a pas dit « Il faudra aller au culte tous les dimanches à 10h30 et vous ferez la Sainte-Cène un dimanche sur deux. Il faut que les enfants confirment à 15 ans ou à 16 ou à 14 ou à 12 ou à 13 qu'ils fassent des communions, des machins, des trucs et des... » Non, le Christ en est totalement fichu. Il n'a pas fait de liturgie, il n'a pas fait de discipline, il n'a rien, il n'a instauré aucun ordre, aucune hiérarchie. Il n'a pas, finalement, le Christ n'a pas instauré d'église, en quelque sorte. Il a simplement prêché l'espérance, prêcher le royaume de Dieu, et l'a invité ceux qui étaient là à croire en Dieu et à mettre leur vie au service des autres et au service de Dieu dans ce monde. Après, est-ce qu'il faut adorer Dieu sur le mont Garizim ou sur le mont Sion, chez les Samaritains, chez les Juifs, chez les protestants, chez les catholiques, chez les orthodoxes? Je crois très honnêtement que ce sont des questions qui sont très largement en deçà des préoccupations du Christ. En effet, ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui fait qu'un chrétien est engagé. Ce n'est pas le fait de fréquenter des saintes assemblées qui fait qu'un chrétien est un bon chrétien, dirais-je. Parce que l'église, je dirais, en soi, n'est rien. Elle n'est rien d'autre que des chrétiens engagés qui se rassemblent. Et ce n'est donc pas elle qui donne le label, si vous voulez, de ceux qui seraient les bons ou les mauvais chrétiens. L'église, au contraire, ce sont des chrétiens engagés dans leur vie personnelle, dans leur vie par rapport au monde, dans leur vie familiale, dans leur travail, des chrétiens engagés qui se rassemblent pour s'aider mutuellement et pour agir ensemble. Alors pour les protestants, la pratique, elle est surtout personnelle. Et c'est pour ça que je vous disais que les protestants arrivent à se passer d'église. C'est la lecture de la Bible, c'est la prière. Voilà, les deux piliers fondamentaux de la pratique religieuse protestante, je dirais. Et là-dessus, je ne faiblirai pas. Je dirais oui, il faut, et c'est essentiel, c'est vital, fondamental, pour que notre vie spirituelle puisse continuer à être active et qu'elle puisse continuer à grandir, il faut persévérer dans la lecture de la Bible, persévérer dans la méditation des Écritures et persévérer dans la prière. Paul d'ailleurs dit « persévérer dans la prière ». Or, on ne persévère pas en général dans les choses faciles. Si l'on dit qu'il faut persévérer, c'est bien que ce n'est pas toujours facile. Et c'est effectivement d'ailleurs dans ce sens que le Christ dit aussi, vous l'avez vu dans ce passage de chapitre 6 de Matthieu, quand il dit « l'important ce n'est pas d'aller prier debout dans les synagogues pour se faire voir des autres, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret ». Ça, c'est, je dirais, la pratique de base, fondamentale du chrétien et du croyant. Quant à Jésus, était-il un bon pratiquant? Eh bien, c'est difficile à dire, parce que, par rapport à l'église de son temps, qui était donc la synagogue pour lui, il n'était pas un bon pratiquant, je dirais. Il prenait quand même beaucoup de liberté par rapport aux règles de son moment. Il transgressait un bon nombre de lois religieuses, il ne faisait pas tellement ce que la bonne bourgeoisie de l'époque disait qu'il fallait faire, et puis il allait globalement, je crois, aux offices de la synagogue, le sabbat, il y allait à peu près, oui, c'est-à-dire qu'il n'a jamais dit qu'il ne fallait pas le faire, et les pèlerinages que devaient faire les juifs, il les faisait à peu près, peut-être pas toujours d'ailleurs, parce que des fois on nous montre dans Jean qu'il a dit qu'il ne voulait pas y aller, mais globalement, il l'a fait à peu près. Mais néanmoins, je voudrais dire que même si effectivement la piété personnelle et la pratique personnelle, je dirais individuelle, est vraiment la chose la plus fondamentale, je crois qu'il y a quand même dans l'Église, dans la communauté, un certain nombre de vraies valeurs qu'il faut citer. Parmi ces choses qui ferait que je voudrais défendre l'Église, je vais vous en citer plusieurs. D'abord que l'Église est importante parce qu'elle permet de transmettre la foi, aux plus jeunes, c'est-à-dire de donner un catéchisme aux enfants, et de transmettre à la foi à ceux qui la découvrent. Et donc oui, l'Église a là un rôle, je dirais, pédagogique, un rôle d'enseignement. Or, c'est très important, les catéchismes. Et il faut pour cela que l'Église existe. Parce qu'on se rend compte en effet que les parents ne sont pas toujours les mieux placés pour enseigner la religion à leurs enfants. Parce que la religion, c'est vraiment une question de choix personnel. Et on n'est pas simplement chrétien parce que ses parents l'étaient. Il faut à un moment donné que quelqu'un d'autre vienne et témoigne de cette foi pour que cela puisse être une foi personnelle et pas simplement une affaire de famille. Donc oui, il est fondamental déjà que l'Église existe pour le fait qu'elle puisse transmettre la foi et l'enseigner à toutes les générations. Ensuite, je dirais que le fait qu'il y ait une Église, c'est bien aussi. C'est bien aussi pour nous tous, pour vous. Parce que l'Église forme une communauté. Une communauté qui peut être chaleureuse et accueillante, qui nous rappelle que dans ce monde, on n'est pas tout seul, mais qu'il y a des frères et sœurs autour de nous, et qui sont là pour porter les fardeaux les uns des autres. Et nous pouvons donc vivre dans l'Église une vraie solidarité et une vraie fraternité. Et il est vrai qu'il est bon de partager avec d'autres sa foi, de sa façon de vivre, ses convictions avec d'autres, de se rappeler qu'on n'est pas tout seul, mais que voilà, il y en a d'autres. Et ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas tout seul comme ça, mais qu'il y en a d'autres qui le pensent aussi. Et ça, je crois que c'est fortifiant et encourageant. Et puis, c'est aussi motivant et stimulant pour soi. Effectivement, le fait de ne pas être tout seul dans une démarche, d'être accompagné, c'est quand même c'est une grande aide. C'est la même chose pour faire du sport, si vous voulez. Effectivement, on peut très bien faire du sport tout seul, ou courir tout seul, mais à plusieurs, c'est beaucoup plus facile. Avec d'autres, c'est plus simple. Alors, on pourrait prolonger cette métaphore du sport en disant que, effectivement, si vous voulez faire du sport par hygiène, vous pouvez aussi n'en faire avec personne, rester enfermé chez vous et vous acheter un vélo d'appartement. Voilà, ça, ce serait celui qui prétendrait se passer de toute église. Mais l'expérience prouve que ça ne marche pas. et je crois que 99% des vélos d'appartement restent relégués dans un coin et ne deviennent plus qu'une sorte de rappel de la mauvaise conscience, de quelque chose que l'on aurait voulu faire et que l'on ne fait pas. Eh bien, voilà le risque qu'il y a à se couper de toute église. Oui, théoriquement, c'est possible, mais pratiquement,